Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, nous allons présenter quelques programmes et sera commencé par le journal, suivi les infos de l'Indonésie. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire aujourd'hui et la mise au point, qui sera continuée avec les événements de la semaine, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et la dernière rubrique, courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal qui sera suivi par les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie lors d'une réunion de la prévention du tourisme international. Le tourisme est l'arme puissante pour le bien-être de la société. Le gouvernement indonésien développe des zones touristiques de Borobudur. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien a accueilli la réunion internationale de la prévention du terrorisme international qui aura lieu à Nusa Dua, Bali, le 10 août 2016. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères, a déclaré récemment que la réunion a démontré l'engagement de l'Indonésie de lutter contre le terrorisme avec la stratégie holistique. Selon l'autre fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, M. Gatot Amri Djemirin, la réunion internationale antiterroriste mettra l'accent sur le mouvement de terrorisme transfrontalier lié aux acteurs, l'information et le financement. Le résultat de la réunion sera discuté à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Les organisations internationales qui seront présentes, entre autres l'Agence des Nations Unies sur la drogue et le crime, la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies, le groupe anti-blanchiment d'argent Asie-Pacifique, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et Interpol. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, a déclaré que le secteur du tourisme était géré avec sérieux. Il pourrait être utilisé comme une arme puissante pour le bien-être de la société. Cela a été dit par le ministre à Puncak Mandeh, Sumatra Ouest, après avoir assisté à la signature d'un mémorandum d'accord sur la mise en place de 1000 chez l'habitant dans la zone touristique Mandeh entre le gouvernement du district de Pesisir Sud et PT Bank Tabungan Negara à Padang récemment. Selon le ministre Arif, la beauté de la région Mandeh doit être bien développée par le gouvernement provincial. Le chef de village de Kutumie de Setara Nanggalo, M. Sisliani, a déclaré que le revenu de ses citoyens augmentait après la zone Mandeh a été désignée comme une destination touristique. Le gouvernement, à travers l'agence d'autorité Borobudur, développera la zone touristique du temple Borobudur, a déclaré le chef de la culture et du tourisme de la province de Java Central, M. Prasetyo Aribowo, à Magelang samedi. Le concept de développement de nouvelles destinations en dehors de Borobudur, située dans le district de Benar, la région de Purworejo, Magelang, et Tritis, dans la région de Kulon Progo, Yogyakarta. Le développement de cette zone sera équipé de toutes les infrastructures touristiques, de sorte qu'avant l'entrée à Borobudur, les gens visiteront d'abord aux destinations dans les trois régions. Le chef de l'agence d'autorité doit coopérer avec des éléments associés dans le développement, entre autres le chef de la région, l'agence de conservation de Borobudur, PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan et Ratu Boko. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant notre programme Les Infos de l'Indonésie. La première nouvelle ou info est venue de Bogor, Jawa-Ouest. Le gouvernement de la ville de Bogor, Jawa-Ouest, en coopération avec le bureau d'immigration, de former l'équipe de contrôle des étrangers au niveau de district qui aidera le gouvernement dans le contrôle de l'immigration. L'agent au maire de Bogor, M. Usmar Hariman, a déclaré récemment que le règlement d'exemption de visa imposé par le gouvernement central nécessite la surveillance de l'immigration intensive contre l'existence et les activités des étrangers dans ce pays. Selon lui, le niveau de résistance de conflits dans la communauté et les conditions internes du pays, qui inclut dans 169 pays sans visa, aura de divers impacts. Basé sur les données, le nombre d'étrangers qui sont entrés dans la ville de Régence de Bogor tout au long de 2016 a atteint 1776 personnes. Les infos suivantes proviennent de Sorong, en Papouasie-Occidentale. Le règlement de la résidence de Maibrat, la Papouasie-Occidentale, numéro 7 en 2015 sur le contrôle de la vente d'alcool, sera immédiatement appliqué. Le président du Parlement régional de la résidence de Maibrat, M. Ferdinando Solosa, a déclaré récemment à Sorong que la vente et la distribution d'alcool peut causer des dommages à la santé humaine et causer des perturbations de l'ordre et la paix publique. Il a déclaré que les règlements du gouvernement et le Parlement régional de la Régence de Maibrat sur le contrôle de la vente d'alcool visent à protéger le public contre les effets de l'alcool. Le règlement de cette région interdit la vente d'alcool librement. Des boissons alcoolisées peuvent être vendues seulement dans les supermarchés et les boîtes de nuit. Après la socialisation, la police prendra des mesures contre les personnes qui vendent ou produisent l'alcool frelaté. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie, de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 7 août 1941, Rabindranath Tagore est mort. Il est un compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien. Il a été couronné par le prix Nobel de littérature en 1913. Il a commencé à écrire la poésie depuis l'âge de 8 ans. Il a utilisé le nom Banu Singho ou Lion de Soleil pour la publication de son premier poème en 1877. Il a écrit sa première histoire courte à l'âge de 16 ans. Le 7 août 1994, la création de l'Alliance des journalistes indépendants, ou AJI. L'Alliance des journalistes indépendants est née comme la lutte de la communauté de presse indonésienne contre l'arbitraire du régime de nouvel ordre. L'initialement est l'interdiction de Detik, Editor et Tempo le 21 juin 1994. Les trois ont été gelés parce que des nouvelles étaient classées comme critiques aux dirigeants. Cette action répressive a provoqué l'action de solidarité. Et enfin, environ 100 personnes composées de journalistes et de jeunes chroniqueurs indonésiens ont réuni à Sirnagali, Bogor, Jawa West, le 7 août 1994. Ce jour-là, ils ont signé la déclaration de Sirnagali. Cette déclaration exige le respect des droits du public à l'information, opposant la retenue de la presse et a rejeté le Forum unique pour les journalistes qui a annoncé la création de AJI. Le 7 août 1998, une grande bombe a détruit les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les ambassadeurs américains de Nairobi, Kenya, et d'Dar es Salaam, au Tanzanie, sont la cible de deux attentats à la voiture piégée à quelques minutes d'intervalle. Ces explosions feront 224 victimes, dont 12 Américains et plus de 4500 blessés. Le gouvernement américain a accusé le réseau de terroristes Al-Qaïda a fait l'attaque meurtrière. Le président Bill Clinton a ordonné le bombardement de camps d'entraînement des terroristes en Afghanistan et un laboratoire de produits chimiques au Soudan. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie. Soyez la première. Soyez différente, soyez la meilleure.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie a organisé avec succès le deuxième forum économique islamique mondial ». Le deuxième forum économique islamique mondial, jeudi 4 août, 2016 a officiellement pris fin. Au cours de la réunion de 3 jours, cet événement a fourni des occasions pour les micro, petites et moyennes entreprises de divers pays pour obtenir des engagements d'affaires qui atteignent 900 millions de dollars américains. Pour Sri Mulyani, la ministre indonésienne des Finances et l'ancien directeur général de la Banque mondiale, l'engagement de 900 millions de dollars américains est très faible. Elle espère que la valeur peut croître rapidement. Comme déclaré la ministre Sri Mulyani, après avoir assisté à la cérémonie de clôture de WIF à Jakarta Convention Center. Selon Madame Sri Mulyani, les engagements de l'investissement provenaient de divers secteurs de l'industrie tels que le logement, la santé, la sécurité, la franchise, le tourisme et la mode. Le rôle de ces industries, selon Mme Sri Mulyani, est de plus en plus important dans le développement des pays qui sont majoritairement musulmans. L'engagement d'affaires est entre les pays, entre les gens d'affaires indonésiens et aussi parmi d'autres pays. Ceci est en accord avec le but de WIF qui veut être un facilitateur pour les chefs de gouvernement et des hommes d'affaires musulmans et non musulmans de se rencontrer, démontrer les produits et créer des opportunités de marché, comme déclarait Madame Sri Mulyani. Elle est fière parce que ce grand forum a été assisté par environ 4000 participants de 73 pays. Ce montant dépasse l'objectif fixé précédemment de 2500 participants de 60 pays. Les participants sont des chefs d'État, des décideurs, de l'universitaire, des praticiens et des entrepreneurs qui viennent et la plupart des pays membres de l'organisation de la conférence islamique. Les participants venaient des industries créatives, les arts et les médias et selon la ministre Sri Mulyani, pourraient appeler une industrie de futur. Cependant, le président de la fondation de WIF, Tunusa Hitam, dans son discours de clôture a déclaré que la fondation continuera à promouvoir l'économie de l'islam en mettant l'accent sur la créativité et l'innovation comme le table ronde, les chances d'affaires,
les sessions d'enseignement, le programme d'État d'investissement et l'exposition des micro, petites et moyennes entreprises et aussi des réseaux d'entreprises. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les événements de la semaine. Les événements du lundi. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré lundi au palais présidentiel Jakarta qu'en plus de la question des accords bilatéraux, les sujets régionaux étaient également discutés dans la rencontre entre le président Joko Widodo et le premier ministre malaisien Najib bin Haji Tun Abdul Razak à Jakarta lundi, entre autres la question de la mer de Chine du Sud. À cette occasion, le président Joko Widodo a également souligné l'importance de la paix dans la région du conflit. Il a rappelé aux pays concernés de respecter la loi de UNCLOS en 1982. Selon Mme Retno Marsudi, l'Indonésie ne voulait pas la mer de Chine méridionale devenir l'emplacement de projection de puissance des grands pays. Au même jour, la Chambre de commerce et d'industrie CADIN Indonésie accueillera le Forum d'investissement des infrastructures de l'ASEAN G2B qui aura lieu du 8 au 11 novembre 2016 à Jakarta. Le forum a été effectué afin de soutenir le plan directeur de la connectivité de l'ASEAN pour 2025. Le vice-président de CADIN d'Indonésie chargé de la construction et infrastructure, M. Erwin Aksa, a déclaré lundi à Jakarta que l'ASEAN est la région la plus importante et a une très bonne croissance dans le monde. Les événements du mardi. L'Indonésie a lancé le plan directeur du système des finances islamiques. Le ministre indonésien de la planification du développement national, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, M. Bambang Brojonegoro, a lancé le plan directeur du système financier islamique en marge de la mise en œuvre du deuxième forum économique islamique mondial mardi à Jakarta. Dans son discours, le ministre Bambang a déclaré que le plan directeur recommandait l'expansion des banques constituées d'un plan d'action et d'intervention sur les produits financiers. Le plan directeur du système financier islamique recommandait également la création du Comité national des finances islamiques. Selon lui, ce comité a la tâche d'assurer toutes les parties prenantes à mettre en œuvre le programme de l'action du plan directeur efficace. Les événements du mercredi, le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre Ranil Wickremesinghe ont discuté de la coopération contre le terrorisme lors d'une rencontre bilatérale au Palais d'État Jakarta le mercredi. C'est ce qu'a affirmé le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors des réunions bilatérales. Sri Lanka estime que l'Indonésie, le plus grand pays musulman, a réussi à diffuser le message de tolérance et la promotion de l'islam modéré parmi ses populations. Il espère que Sri Lanka et l'Indonésie pouvaient renforcer la coopération pour lutter contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Au même jour, le président Joko Widodo a demandé les ministères et institutions de continuer et renforcer la réalisation des programmes prioritaires en 2017, entre autres le développement de l'infrastructure. Comme affirmé le président Joko Widodo dans la séance plénière du cabinet discutant le brouillon de la note financière et la posture du projet de budget d'État 2017, le mercredi, au bureau présidentiel Jakarta. Le chef d'État a aussi demandé de maintenir la condition économique récente et s'efforcer d'augmenter la croissance économique au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2016. Les événements du jeudi, le deuxième Forum économique islamique mondial ou WEF est un forum qui est lancé pour répondre aux défis économiques mondiaux. Ce forum devait stimuler l'économie, notamment le monde islamique à travers certains principaux programmes réalisés. C'est ce qu'a affirmé le président du WIF, Tun Musa Hitam, dans le discours de clôture du deuxième forum économique islamique mondial, jeudi à Jakarta Convention Center. Le forum a eu lieu à cause de la faiblesse des défis économiques mondiaux, l'incertitude géopolitique, les préférences des marchés financiers et l'effet du changement climatique. Le forum a discuté des sujets liés au écosystème halal mondial, l'amélioration de l'exclusivité des finances islamiques, l'amélioration des micro, petites et moyennes entreprises, le soutien et processus ou de l'action et le développement des industries créatives. Au même jour, le président de l'Ukraine visite l'Indonésie du 5 au 7 août pour discuter des coopérations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a déclaré jeudi à Jakarta que le président de l'Ukraine, Petro Porochenko, a fait une visite d'État en Indonésie du 5 au 7 août 2016. Selon M. Arman Atanasir, le président Petro Porochenko a signé le protocole d'accord avec l'Indonésie dans quatre domaines, tels que la défense, l'agriculture, l'éducation, la diplomatie et l'exemption de visa pour diplomatique et officiel. En outre, le président ukrainien va se rendre à Yogyakarta pour rencontrer Sri Sultan Hamengkubuwono X et rencontrer le gouverneur de Bali. Les événements du vendredi, l'Algérie s'est intéressée à la coopération de Hajj et Umrah avec l'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie en Algérie, Safira Masrusa, a transmis l'admiration et les aspirations du gouvernement algérien sur le succès de l'Indonésie dans l'organisation des pèlerins de Hajj. En ce qui concerne cette question, l'ambassadeur Safira, dans une rencontre avec le ministre indonésien des Affaires religieuses, M. Lukman Hakim Saifuddin, le vendredi, a déclaré que le gouvernement algérien avait l'intérêt d'établir une coopération dans le domaine de l'organisation du Hajj et Umrah avec le gouvernement indonésien. Dans le secteur de l'éducation, les deux pays ont réalisé des programmes d'échange d'étudiants et ont le projet d'établir la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Lors de sa visite, l'ambassadeur a exprimé le désir du ministre algérien des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur de ces deux pays à travers le renouvellement du protocole d'entente convenu depuis l'an 1995. Chers amis, c'était les événements de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à faire le voyage de nuit à Monas afin de jouir la beauté de Jakarta en nuit, du sommet de Monas. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de longs cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à fr.boi.co.id. Monas soit le monument national et le monument mémorial à hauteur de 132 mètres étant construit à la mémoire de la résistance et de la lutte du peuple indonésien pour l'indépendance du gouvernement néerlandais. Ce monument a été construit le 17 août 1961 sous l'administration du président Sukarno et il est ouvert au public le 12 juillet 1975. Au sommet de ce monument, il y a une flamme revêtue de feuilles d'or qui symbolise l'esprit de lutte ardente. Le monument national est situé dans le centre de l'espace Medan Merdeka, Jakarta Central. Le monument national est ouvert tous les jours de 8h à 15h. Chaque mois, le lundi de la dernière semaine, le monument national est fermé au public. Le 5 avril 2016, le gouverneur de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, a inauguré le voyage de nuit du Monument National, Monas, car il y a beaucoup de touristes qui veulent jouir du voyage de nuit à Monas. Le tourisme de nuit Monas est ouvert du mardi au dimanche de 19h à 22h. Ici, on peut jouir du panorama de Jakarta, du sommet de Monas en payant le billet 20 000 rupiah par pour l'adulte et 10 000 rupiah pour l'enfant. Pour ceux qui veulent seulement monter jusqu'à la tasse de Monas, le billet est 7 500 rupiah pour l'adulte et 3 500 rupiah pour l'enfant. L'heure supplémentaire jusqu'à 22h sert aussi pour ceux qui sont dans le jardin à Monas. En outre, on ajoute le nombre de billets. De 8h à 14h, on vend 1800 billets. De 19h à 22h, on vend 700 billets. Le gouvernement de Jakarta va préparer de diverses infrastructures, entre autres les toilettes publiques qui sont équipées de la climatisation. Il y a aussi une variété de marchands culinaires qui vendent des aliments au prix de marchands ambulants. Ceci vise à empêcher les visiteurs d'acheter la nourriture et des boissons à l'extérieur du monument. En raison que Monas se situe dans la région du cercle plusieurs 60 agents de sécurité ont été déployés pour maintenir la sécurité de voyage. Chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs. Si forte est la mondialisation qui se jette à l'Indonésie, en particulier dans le domaine de la technologie, porte de nouveaux modes de vie et de divertissement et un certain impact sur la vie sociale et culturelle de la société. Cela comprend la diminution d'une grande variété de jeux traditionnels joués par les enfants. En fait, les jeux traditionnels des enfants prennent de nombreux avantages sociaux et culturels pour le développement des enfants vers la propriété des connaissances et des compétences individuelles et collectives. Reliant à cette situation, la rubrique de l'Indonésie en couleur ce soir a pour titre « Les jeux traditionnels des enfants indonésiens deviennent médias d'éducation à un âge précoce ». Jouer est le monde d'un enfant. Jouer est également le droit des enfants. En jouant, les enfants utilisent ses muscles, stimulent le sens du corps, explorent le monde entier, découvrent ce que le monde est eux-mêmes. En jouant, les enfants apprennent de nouvelles choses. Les physiques d'enfants seront formées. Les capacités cognitives et l'interaction avec d'autres personnes seront également développées. Cependant, le développement de temps et la mondialisation, notamment le progrès technologique, en particulier en Indonésie, aujourd'hui a pénétré le monde des enfants, y compris les enfants en un âge précoce. L'âge qui doit être rempli avec beaucoup d'expérience pour appuyer la motion que l'intelligence de mouvement kinesthésique dans la période de croissance suivante. Différents types de jeux pour enfants modernes, tels que PlayStation ou les jeux en ligne, sont proliférés imparables. Les jeux traditionnels ont commencé à être abandonnés car ils sont considérés comme archaïques et épuisants. En fait, si on regarde de plus près, une variété de jeux traditionnels donne directement des leçons aux enfants sur le sens de la tolérance, l'interaction sociale, le travail d'équipe et de perspicacité. Comparé avec les jeux électroniques qui forment beaucoup le comportement des enfants d'être en solitaire et antisocial. L'Indonésie est un archipel avec un large éventail de l'ethnicité, la race, la culture, la belle nature et possède diverses branches de jeux traditionnels tels que sauter le koshuk, jouer en cerf-volant, jouer dakon ou chongklak et bien d'autres. Grâce aux jeux traditionnels, les enfants peuvent aussi développer tout le potentiel de manière optimale. Par conséquent, les jeux traditionnels pour les jeunes enfants est le pont de développement de tous les aspects. Les avantages des jeux traditionnels sont entre autres, les enfants deviennent plus créatifs car il est généralement effectué directement par les joueurs de jeux traditionnels. De plus, les jeux traditionnels peuvent être utilisés comme thérapie pour les enfants. Quand jouer, les enfants vont libérer ses émotions. Ils crient, rient et aiment. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et aussi le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous présenterons des chansons de dangdut chantées par Asmin Seider. Bon, chers amis, on écoutera la première chanson intitulée « Les murs de la douleur ».
Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan ditahan, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkel. Saya ingin cepat pulang. Ingin cepat pulang.
saya akan disidang. Sudah 3 bulan ditahan, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan. Tidur di ubin tak bertikar, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Saya ingin
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la première chanson de Dangdut intitulée Les morts de la douleur, chantée par Asmin Seidar. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et envoyé des rapports d'écoute, et notamment à Vincent, 14 rue Camille Saint-Saëns, Courbevoie, la France, et Jean-Michel Aubier, 13 rue de Brissette, 18340 Arcaille La France et Franjac, en rue des Aglantiers, F49430 Louis et Marichal Pierre en France, précisément à 17 allées des Trous Gelés. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et comment ça va? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Asmin Seidar, intitulé Cukup Sekian.
Kenal kamu tanggal sekian, bulan sekian, di jalan cinta gang sekian, nomor sekian. Kita pacaran lamanya sudah sekian, ku hitung-hitung makan biaya sekian. Di restoran 7 kali bayar sekian, nonton ke bioskop 5 kali sampai sekian, belum ke pesta beli kado jumlah sekian, ku hitung semua jadi sekian. Segalanya jangankan kalung emas, rantai kapal ku belikan, jangankan minta ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan.
Masa iya sih?
Tapi yang menyakitkan, sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Kau sakit, ke dokter bayar sekian, beli kosmetik dan pakaian habis sekian, belum pelesiran keluar kota sampai sekian, ku hitung semua jadi sekian. Untuk kamu yang ku cinta, ku
segalanya. Jangankan kalung emas, rantai kapal ku belikan. Jangankan minta ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan. Ah, tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan. Teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan. Teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan. Teganya kamu bilang cintamu cukup sekian.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique Courrier et musique. Et chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson de Dangdut chantée par Asmin Saider. Maintenant, je vais saluer aux amis de l'Algérie, Abdoulilah Boubsir, à 05 rue Larets Boussentouf, 22000 Sidi Bel Abbès, Algérie. Merci pour le rapport d'écoute. Et aussi à Guillaume-Marie Sergi en Italie, toujours en Algérie, à Narmoutier Nauri, et coach Didier au Bruxelles en Belgique, précisément à rue Charles Ramacher. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie et comment ça va? Bon, chers amis, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Avant de terminer cette émission, je vais présenter les deux dernières chansons de Dangdut chantées par Asmin Saider. Cette émission est maintenant terminée. Très bonne fin de semaine et à bientôt.
Mati Pak Polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah. Sumpah mati Pak Polisi, saya orang baik-baik. Jelas ini salah tangkap, teliti dulu orangnya. Saya orang baik-baik.
Pak, nama Asmin di kampung ini ada dua, Pak. Kalau saya, Asmin tukang orkes.
Kenapa aku yang dicurigai? Orang yang ngejamret, kenapa aku yang diembet? Orang yang memperkosa, kenapa aku yang disangka? Nasib ya nasib, kenapa jadi begini? Orang makan nangkanya, tapi aku kena getahnya. Sumpah mati Pak Polisi, saya orang baik-baik. janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah, saya orang baik-baik. Kenapa aku yang dicurigai? Orang yang ngejamret, kenapa aku yang diembet? Orang yang memperkosa, kenapa aku yang disangka? Nasib ya nasib, kenapa jadi begini? Orang makan nangkanya, tapi aku kena getahnya. Sumpah mati Pak Polisi, saya orang baik-baik. Janganlah saya dibawa, saya tidak punya salah, saya orang baik-baik.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Oh,
écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la dernière programme, Courrier et musique. Et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.